journal, présenté par Thomas Séchier.
Bonjour à tous, il fut le premier parti islamique à prendre le pouvoir dans la foulée des révolutions du printemps arabe. Depuis, il a perdu sa place. Aujourd'hui, c'est un véritable tournant stratégique qu'opère Ennahda. Le parti islamiste modéré tunisien va séparer ses activités politiques de ses activités religieuses à la manière des formations chrétiennes démocrates. Fini l'islam politique, une révolution au sein d'Ennahda qui organise ce week-end son deuxième congrès depuis la chute de Ben Ali. Alors qu'en pense les militants, et bien Justine Fontaine leur a posé la question à la soirée d'ouverture du congrès hier soir.
L'idée qu'Ennahda sépare clairement ses activités politiques de la prédication religieuse n'est pas nouvelle. Elle remonte au moins à l'adoption de la constitution tunisienne il y a 2 ans et demi. Mais elle tranche avec l'histoire du mouvement puisqu'il s'est créé dans les mosquées au début des années 1970. À cette période, le père de Mohamed Bouzidi était déjà militant d'Ennahda. Pendant la dictature de Ben Ali, il a même perdu son travail à cause de ses activités politiques. Alors Mohamed n'est pas vraiment favorable à la nouvelle ligne du parti.
Personnellement, je suis contre. Lorsque on a la mémoire, il ne peut pas s'effacer tout simplement. C'est pas facile d'avoir cette séparation.
Comme le père de Mohamed, Belgacem Radraoui était déjà militant d'Ennahda sous la dictature. Pourtant, il considère lui que cette décision est justifiée maintenant que la Tunisie est en démocratie et que chacun peut pratiquer librement la religion musulmane sans restriction de la part du gouvernement.
Moi, je suis pour ça parce que un parti politique exerce les activités politiques seulement. En ce qui concerne les activités religieuses, je vois qu'il faut passer ces activités à la société civile.
Le leader historique du parti, Rached Ranouchi, qui devrait être reconduit à la tête du mouvement ce week-end, va plus loin. Selon lui, des religieux ne pourraient plus devenir cadres du parti et il ne serait plus possible que des membres d'Ennahda interviennent dans les mosquées tunisiennes.
Correspondance de Justine Fontaine en Tunisie. Les premières élections locales depuis la fin de la dictature sont prévues en mars prochain. Le leader d'Ennahda n'exclut pas de faire des listes communes avec le parti aujourd'hui au gouvernement. Les recherches se poursuivent en Méditerranée pour tenter de retrouver l'avion de la compagnie Égyptair disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Il reste introuvable ce matin, mais tout porte à croire que cet Airbus A320 qui reliait Paris au Caire s'est abîmé en pleine mer avec ses 66 passagers membres d'équipage. Les premiers débris ont été repêchés hier à 290 km au nord des côtes d'Alexandrie. Ce matin, toujours aucune explication officielle sur les causes de la catastrophe, mais plusieurs médias américains affirment que de la fumée a été détectée dans le cockpit peu avant la disparition de l'appareil. Décidément, la fermeture de la centrale de Fessenheim risque de prendre plus de temps que prévu. Elle est annoncée de longue date. EDF attend une compensation financière de l'État à la fermeture du site alsacien. En 2014, un rapport parlementaire chiffré à 4 milliards d'euros l'indemnité possible pour EDF, c'est-à-dire bien au-dessus de la proposition de Ségolène Royal, car selon le journal Le Monde, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie offrirait moins de 100 millions d'euros. Autant dire qu'on est pour l'instant bien loin d'un accord, Anne-Laure Chouin.
C'est un courrier adressé au début du mois par Ségolène Royal au PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, dans lequel la ministre de l'Environnement chiffre à 100 millions d'euros maximum le montant de l'indemnité que l'État verserait pour compenser la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim au moment où se mettra en marche l'EPR de Flamanville, mise en marche prévue normalement début 2018. Un montant 20 à 50 fois inférieur à tous les chiffrages mis sur la table depuis l'annonce de la fermeture, des chiffrages qui eux-mêmes ont beaucoup varié. Cela dit, cette somme, qui ressemble à une enchère volontairement basse, a placé le début des négociations entre l'État et EDF sous des auspices houleux et elle repose la question du coût réel de la fermeture de la centrale. Pour expliquer ces 100 millions d'euros, la ministre de l'Environnement invoque les prix actuellement très bas de l'électricité, des prix qui devraient continuer à stagner, diminuant d'autant le préjudice pour EDF. Par ailleurs, des investisseurs seraient, toujours selon Ségolène Royal, susceptibles d'aider à la reconversion du site et donc de baisser les coûts de la fermeture. Face à ces arguments, les négociateurs d'EDF mettent en avant, eux, la situation financière catastrophique du groupe énergétique, leurs actionnaires à Fessenheim, allemands et suisses, qui comptent eux aussi sur une indemnisation, et enfin le manque à gagner qui résultera fatalement de la fermeture d'un outil qui, selon EDF, fonctionne bien et pourrait être utilisé pendant encore plusieurs années, sans compter les investissements réalisés pour moderniser la centrale et permettre de la faire durer encore. Des arguments qui, pour l'instant, n'émeuvent pas un État qui met aussi en avant sa nécessité de ne pas trop utiliser d'argent public.
Explication signée Anne-Laure Chouin. Aujourd'hui, c'est contre Monsanto et les pesticides que plusieurs milliers de personnes s'apprêtent à manifester dans une quarantaine de villes de France. Une grande marche contre le géant américain des biotechnologies agricoles. Elle vise à faire pression sur l'Union européenne qui a reporté sa décision sur l'autorisation du glyphosate, une substance utilisée notamment pour fabriquer l'herbicide controversé de Monsanto, le Roundup. L'Autriche est peut-être à la veille d'une journée historique. Pour la première fois, l'extrême droite pourrait accéder à la présidence de la République, une fonction essentiellement symbolique, certes, mais le symbole, justement, serait fort. Le candidat du FPE, le Parti de la Liberté, Norbert Hofer, apparaît favori face au candidat écologiste. Et pendant qu'à peine 400 militants antifascistes manifestaient jeudi soir à Vienne, Norbert Hofer a tenu son dernier meeting avant le vote, hier soir. Et Ludovic Piétenu y était.
10e arrondissement, quartier très populaire de la capitale autrichienne. Des immigrés, des retraités, des jeunes, seul point commun à tous ces gens massés devant une petite tribune, de faibles revenus, le ras-le-bol de la crise. À mesure que le meeting se déroule, ambiancé par un orchestre traditionnel, la bière coule à flot et l'on chante à la gloire de l'Autriche, encore et toujours l'Autriche. À la tribune, le candidat Norbert Hofer ne dit pas autre chose.
À chaque décision que j'aurai à prendre en tant que président, et je serai président, je choisirai l'Autriche, toujours.
En grosses lettres capitales, on peut lire « La voix de la raison », le slogan du FPE. Un jeune homme, Marco, tombe par hasard sur cet événement de campagne. « Je vais voter pour l'autre candidat », dit-il. « Ici, les gens sont très agressifs. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous tapent. Ici, ce n'est pas l'Autriche, pas du tout. » Hofer délivre un message clair avec des mots simples. Il s'exprime calmement pour tenir un discours anti-immigré et islamophobe. C'est cette foule populaire qui constituera dimanche l'essentiel de son électorat.
Un reportage signé Ludovic Piétenu à Vienne. On termine avec le temps de ce samedi. Des averses et des orages sur une large moitié ouest de l'Aquitaine à la frontière belge. C'est plus calme et bien meilleur partout ailleurs avec du soleil et des températures qui atteindront les 30 degrés dans le sud-ouest.